agents volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Aujourd'hui, nous allons parler de chaleur. Vous l'avez remarqué peut-être, il fait chaud, très chaud, trop chaud. La température s'emballe de janvier à juin 2026 en consultant l'indicateur thermique national. On constate factuellement que la quasi-totalité des journées ont été plus chaudes que la moyenne calculée sur la période 1991-2020. Seule une trentaine de jours ont été plus frais. La raison à tout cela? Le réchauffement climatique, bien entendu. Les autres effets, El Niño et autres, ne font que renforcer le phénomène, sans pour autant en être la raison première. La plupart des médias surfent sur les événements caniculaires ou autres catastrophes météorologiques pour alimenter leur fil, au même titre que la guerre en Ukraine, en Palestine, au Liban ou les sauts d'humeur de Donald Trump, ou encore les courbettes des grands du monde. Un regard critique sur les causes, sur le cynisme des protagonistes, l'analyse des doubles discours, tout cela n'a aucune sorte d'importance visiblement, ce qui importe c'est le moment. Quand on s'attarde un peu plus sur le sujet, c'est pour promouvoir la relance, la vente et l'installation des climatisations. Alors aujourd'hui, nous allons essayer d'être un peu plus sérieux que cela, de nous pencher sur ces vagues de chaleur et comment s'y prendre simplement pour éviter d'installer des usines à gaz que sont les climatiseurs. Des équipements, source d'inégalités, qui refroidissent temporairement leurs propriétaires pour qu'ils puissent continuer à vivre sans rien changer, mais qui induisent un inconfort pour les autres, en accélérant le réchauffement climatique et en produisant des îlots de chaleur, sans compter le bruit. Bon, déjà, pourquoi est-ce qu'il fait chaud? Parce qu'il y a l'effet de serre. Sans effet de serre, sur Terre, il y aurait autour de moins 18 degrés en moyenne. De quoi s'éviter bien des tracas, vu qu'il n'y aurait certainement pas beaucoup de vie. Quand l'énergie du soleil arrive sur Terre, sous forme de rayonnement infrarouge notamment, une partie est directement réfléchie vers l'espace et part chauffer d'autres lieux. Une autre partie arrive sur Terre et vient la réchauffer, que ce soit l'eau des océans, la terre, les feuilles des arbres ou autres. Une fois chaud, ces corps vont réémettre de la chaleur, sous forme d'infrarouge également. Mais comme le rayonnement dépend de la température du corps qu'il émet, comme nous ne sommes pas des soleils, et encore moins des lumières, le rayonnement qui repart ainsi vers l'espace n'a pas la même longueur d'onde que le rayonnement qui arrive du soleil. Quand ces derniers passaient sans problème au travers de l'atmosphère, le rayonnement qui part de la Terre est arrêté en partie par l'atmosphère. Pour simplifier, l'atmosphère est transparente au rayonnement du soleil et relativement opaque au rayonnement provenant de la Terre. Une partie de l'énergie reste donc captive, ce qui réchauffe l'atmosphère, c'est l'effet de serre. Bon, ça c'est le principe, tout allait bien jusqu'ici, avec quelques fluctuations à cause des modifications comme l'axe de la Terre, des changements de composition de l'atmosphère grâce aux plantes notamment, ou autres phénomènes. Des fluctuations extrêmement lentes à l'échelle du vivant, sur des milliers voire des millions d'années auxquelles le vivant peut s'adapter. Sauf qu'un animal, qui se prend pour une lumière, a relâché en quelques décennies dans l'atmosphère ce que la Terre avait réussi à enfouir pendant des millions d'années. Ce qu'on appelle le progrès, c'est un retour au temps géologique de plusieurs millions d'années, bien avant l'apparition d'Homo sapiens sapiens. En relâchant dans l'atmosphère ces gaz à effet de serre, nous engendrons un effet de serre additionnel, complètement artificiel. Le rayonnement terrestre est de plus en plus capté, le climat se réchauffe. Oui, mais Donald Trump et ses copains, ils pointent du doigt des vagues de froid pour décrédibiliser le consensus scientifique. Bon, ok, comme ça devient un peu compliqué de les croire, leur nouvelle stratégie consiste plutôt à faire supprimer les connaissances scientifiques, soit en supprimant les données et en faisant en sorte que leurs copains de la tech n'alimentent pas leur IA avec ces données, soit en supprimant les chercheurs. Une stratégie assez intéressante où, en supprimant le thermomètre, on supprime la physique. Bon, revenons à nos vagues de froid épisodiques et de chaud systématiques et essayons de les expliquer. De manière générale, on assiste à un réchauffement plus conséquent des pôles que de la zone équatoriale. De ce fait, on assiste à une plus grande homogénéité des températures sur Terre. Avant, il y avait une grande différence entre les pôles et l'équateur, désormais cette différence est plus faible. Imaginons un jeu rigolo, celui de la corde. On positionne une équipe à chaque bout, on leur dit de tirer. Dans un premier temps, on leur demande de tirer tous très fort. Je donne un coup de pied au centre de la corde. Tout le monde étant bien cramponné à tirer, il ne se passe rien. Maintenant, on leur demande de tirer mollement, juste de quoi maintenir la corde horizontale. Je donne un coup de pied au milieu, tout le monde tombe, le système est déstabilisé, la corde part d'un côté ou de l'autre. Quand les températures sont plus proches entre les pôles et l'équateur, le système est plus mou. Les masses d'air ont plus de facilité à passer de l'un à l'autre. Dans nos régions tempérées, on assiste donc plus fréquemment à des descentes de masse des pôles, des masses d'air froid et des remontées de masse d'air de l'équateur, des masses d'air chaud. Et comme on est dans une période globalement plus chaude, c'est la fréquence des masses d'air chaude qui augmente. Une explication assez simplifiée, mais qui permet quand même de mieux comprendre la situation. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, on comprend que s'il y a une chose à faire, ce n'est certainement pas de se ruer chez le marchand de climatiseurs, mais d'arrêter nos bêtises toutes affaires cessantes. Car la climatisation, si elle refroidit son client, elle ne fait rien de bon pour la nature. Ce n'est pas elle qui va requinquer les arbres, les champs, les oiseaux, bref, le vivant. S'il y a une chose à faire, ce n'est certainement pas de se ruer sur les aides à l'installation de laine de verre ou autres isolants mal pensés, voire mal posés. Car isoler les maisons par l'intérieur avec ce type d'isolant, sans inertie thermique, oui, cela freine les échanges avec l'extérieur, mais faudrait-il qu'il n'y ait pas de fuite? Et surtout, il faut comprendre le concept de l'isolation. L'isolation, c'est un frein aux échanges thermiques. Mais pour qu'il y ait un échange, donc un frein, il faut une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Quand on est en hiver, on comprend que dehors il fait froid et que dedans on voudrait qu'il fasse chaud. Sans apport de chaleur à l'intérieur, le logis prendra irrémédiablement la température de l'extérieur, avec ou sans isolation. Ce n'est qu'une histoire de temps, plus ou moins proportionnelle à l'efficacité de cette isolation. Donc si en hiver, pour maintenir l'écart de température avec l'extérieur, j'ai besoin d'un chauffage, à contrario, en été, j'ai besoin d'une source de froid. Et nos politiques assistaient des lobbyistes du secteur de trouver la solution, la climatisation. Un truc qui prend les calories dans la maison et les recrache dehors, renforçant ainsi l'effet de chaleur dehors. Super. Et nos politiques de poursuivre, pour freiner l'échange, il faut de l'isolation. Sauf qu'en isolant les murs, à la moindre entrée d'air brûlant de l'extérieur, la pièce se réchauffe. À la moindre cuisson, la pièce se réchauffe. Il faut donc pousser un peu plus la climatisation. Si, en plus, vous avez un Gus qui vous a installé un Velux plein sud, c'est le bonheur assuré. Le soleil, c'est jusqu'à 1 kW de puissance au mètre carré. En gros, une fenêtre, c'est un radiateur. Qui allumerait le chauffage en pleine canicule ? Visiblement, les architectes qui pondent des bâtiments tout en verre ont loupé quelques cours. Bref, la grande fenêtre sans pare-soleil, c'est le concept dépassé du XXe siècle, poussé à son paroxysme. Balance ton four.
Bonsoir, il fait encore bien chaud cette nuit, encore plus chaud que la nuit précédente, puisque non seulement il a fait très chaud aujourd'hui, mais en plus il y a une couverture nuageuse. Les températures demain matin, tout à l'heure plutôt, je vous l'ai dit, la nuit sera plutôt chaude. Le minimum prévu pour Cherbourg et pour Brest avec 13 degrés, on attend 20 degrés au lever du jour à Paris, ainsi qu'à Nice comme d'habitude, mais le maximum prévu au lever du jour sera pour Toulouse et pour Perpignan avec 21 degrés. L'après-midi, bon, ça devrait baisser. Je sais, ça fait deux jours que je vous dis que ça devrait baisser et ça baisse pas vraiment. Mais demain, ça devrait baisser. Donc le minimum prévu pour Cherbourg et pour Brest avec 22 degrés, on attend 29 à Paris, 30 à Strasbourg. Voyez, les températures restent élevées. Le maximum attendu à Grenoble avec 32 degrés.
Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez les croissants décroissants. Aujourd'hui, nous parlons de chaleur. On a chaud, on transpire, on suffoque. Il faudrait qu'on arrête nos bêtises de réchauffement climatique là, tout de suite. Mais pour être à même de se poser les bonnes questions, faudrait-il déjà que notre cerveau puisse se concentrer? Alors que faire? Vous l'avez compris, il faut faire tout le contraire de ce que l'industrie lobbyistique nous recommande. Premièrement, le soleil ne rentre pas. On vit à l'ombre. Il ne faut pas oublier que le soleil, c'est jusqu'à 1 kW d'énergie par mètre carré. Grosso modo, c'est l'équivalent d'un radiateur par fenêtre. Les volets sont quasiment fermés. On laissera néanmoins une petite ouverture pour laisser la chaleur s'évacuer. Car si on ferme complètement le volet, le soleil tapant dessus, il va chauffer et s'il est complètement clos, cette chaleur va s'accumuler, chauffer la fenêtre et donc la maison. Et si on n'a pas de volet? Alors là, plusieurs options, mais toujours la même ligne directrice. Le soleil ne rentre pas. Première option, on accroche un tissu dehors pour éviter que le soleil n'arrive à la fenêtre. Seconde option, on humidifie l'extérieur de la fenêtre avec de l'eau et on vient maroufler une couverture de survie dessus. Vous pouvez même choisir si vous préférez de voir le côté doré ou argenté. Dans tous les cas, c'est super efficace. Mais attention, la couverture est dehors, pas dedans. Le seul souci, c'est que si elle décide de partir, elle s'envole n'importe où. Donc, à éviter si vous n'êtes pas certain de pouvoir récupérer ce bout de plastique. Dernière option, pour quelques euros, vous achetez du blanc de meudon. Vous le mélangez avec de l'eau, ça fait une peinture blanche, et vous badigeonnez l'extérieur de la fenêtre. C'est super efficace aussi, le soleil ne rentre pas, le blanc de meudon c'est de la craie, comme le dentifrice, même si c'est pas terrible à manger, ça n'est pas toxique. Et à la première pluie, quand on n'en a plus besoin, ça part. Efficace, pas cher, pratique. Qui dit mieux? Vous l'aurez compris, il s'agit principalement de se protéger des apports solaires. Alors, vous avez un mur, une façade ou autre qui prend le soleil tout l'après-midi? Et le soir, c'est la fournaise, ça rayonne de la chaleur comme dans le four? Malheureusement, vous n'allez pas reconstruire la maison et l'architecte, c'est vous, un ami ou un inconnu. Alors, même si vous avez envie de le vilipender, ça ne va pas régler le problème. Ici encore, plusieurs options. La plus rapide à mettre en place, installer un voile en tissu dehors à une quinzaine de centimètres du mur. Cela évitera au soleil de taper directement sur votre mur. L'espace laissé entre le mur et le tissu permet de ventiler naturellement et d'évacuer la chaleur. Mais à plus long terme, vous aurez peut-être envie que ce soit plus élégant qu'un vieux drap qui pend. Le plus simple reste donc de laisser la nature faire le boulot. Planter un arbre qui fera de l'ombre en été, qui aura perdu ses feuilles en hiver et qui donc laissera en hiver le soleil chauffer gratuitement votre maison. Et si vous êtes quand même un peu plus pressé pour arriver à vos fins, pourquoi ne pas installer une vigne, un kiwi? En plus, vous aurez de quoi manger. Un nouvel hôtel à insectes et oiseaux, tout le monde y gagne. Et surtout, il faut éviter les abords minéraux. Une dalle en béton, un parterre de cailloux. Ils absorbent et accumulent la chaleur puis la rayonnent pendant des heures, même quand le soleil est couché. Il vaut mieux leur préférer de l'herbe. Et plus elle est haute, plus elle est capable de dissiper l'énergie du soleil. Un sol nu a environ 40-50 degrés en plein soleil, tandis qu'une pelouse ou une prairie seront respectivement à 30 voire 20 degrés dans les mêmes conditions. Pourquoi ? Parce qu'ils se font de l'ombre et que leur grande surface de contact avec l'air leur permet de dissiper la chaleur au lieu de l'accumuler. Autre phénomène, l'évapotranspiration. Ils évaporent de l'eau. Or, transformer de l'eau liquide en vapeur demande de l'énergie. Ceci participe donc à refroidir la plante. Au même titre que l'évaporation de votre sueur permet d'abaisser votre température corporelle. On peut donc mettre à contribution ce phénomène physique à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il suffit d'avoir des plantes pour que cela se passe bien, ou d'évaporer de l'eau sur les murs, le sol. Mais attention, il ne s'agit pas d'asperger un mur en placo laine de verre, ces matériaux modernes ne supporteront pas le traitement. En revanche, une dalle en chaux, un mur en terre vous assureront la fraîcheur en évaporant soit l'eau que vous y mettez, soit l'humidité qui s'y est accumulée durant l'hiver. Un vieux procédé utilisé pour maintenir le frais, voire la glace dans les réfrigérateurs du dessert. Bref, vous avez le choix entre les matériaux du XXe siècle qui polluent l'atmosphère, y compris celle de votre logis, qui transforment les habitats en fours, ou les matériaux ancestraux qui sont naturels, bon marché et hyper efficaces. La mode est à s'exciter en pleine canicule, puis d'oublier aussi vite dès que les températures baissent pour se pencher sur des sujets autrement plus importants, comme la qualité du gazon à l'autre bout de la planète pour la Coupe du Monde de football. Si néanmoins on a un peu plus de recul et de vision, on peut s'intéresser au plus long terme. L'isolation, on a vu que ça freinait les échanges thermiques. En fait, c'est très important à partir du moment où l'on installe un équipement qui crée cette différence de température, que ce soit en hiver avec le chauffage ou en été avec la climatisation. Mais ça, c'est pour les aficionados de la technologie. pour ceux qui croient que c'est plus simple de ne pas se poser de questions. Ce qui assure le confort thermique, c'est la stabilité de la température. Et ça, ce n'est certainement pas l'isolation qui l'assure, mais la masse. Plus on a de masse, plus il y a d'inertie, plus il est difficile de changer la température d'un mur. Pour illustrer, imaginons que l'on augmente de 1 degré un pan de laine de bois. Maintenant, prenons un autre matériau avec une épaisseur qui isolera tout autant et chauffons-le avec la même quantité d'énergie. Un mur isolé en polystyrène chauffera alors de 17 degrés. Un mur en laine de roche ou de verre chauffera de 15 degrés. Un mur en paille montera, tout comme la laine de bois, de 1 degré. Tandis qu'un mur en bois plein ou en pierre, tel qu'usuellement réalisé, s'échauffera uniquement de quelques centièmes de degrés, rien comparé aux matériaux industriels précédemment cités. Pour passer à la pratique, rentrez dans n'importe quelle église ou château en pleine canicule et vous comprendrez instantanément de quoi il s'agit. Exit donc les pavillons en parpaing et polystyrène avec climatisation qui tourne à fond. On retourne à l'âge de pierre, celui de la bonne vieille ferme dont les murs font 70 cm d'épaisseur. Elle vous assure un confort thermique sans égal. 40 degrés dehors, 25 au pic de la canicule à l'intérieur, sans usine à gaz, juste avec des pierres et de la terre des champs alentour. Et pour ceux qui auraient du mal à quitter l'irraisonnable 20e siècle, aujourd'hui le design thermique d'un habitat devrait peut-être, avant toute chose, se faire sur le critère du confort d'été. Il ne faudrait pas se perdre à ne traiter que le confort d'hiver, alors que les hivers sont de plus en plus courts et cléments, les étés de plus en plus longs et chauds. On a vu comment éviter que l'extérieur vienne chauffer l'intérieur de la maison et du bureau. Mais il ne faudrait surtout pas gâcher ce confort en infiltrant de l'énergie au travers de nos équipements. Le premier en date, la cuisson. Exit le four, au menu, salade et autres plats sans cuisson ou à minima. Autre source de chaleur, l'eau chaude sanitaire. On peut baisser, voire couper le chauffe-eau. De toute manière, une douche fraîche sera aussi la bienvenue. Et tout cela aura aussi un impact positif. Une atmosphère saturée en humidité, celle de la douche ou de l'eau qui bout, vous donnera une sensation de chaleur, tandis qu'une chaleur sèche sera bien plus confortable. Pourquoi ? Parce qu'elle nous aide à mieux transpirer et donc à mieux réguler notre température. Et maintenant que tout cela est en place, reste à évacuer l'accumulation de chaleur, inexorable. Pour cela, il suffit d'aérer au maximum quand les températures extérieures chutent, si tant est que cela arrive. Bref, ne pas hésiter à se lever vers 4-5 heures pour ouvrir et refermer dès que le thermomètre s'excite à la hausse. Loin de moi d'interdire l'usage de la climatisation, mais on voit bien que c'est uniquement utile en dernier recours pour un usage exceptionnel. Cet appareil a toute sa place aux urgences ou à la cuisine d'un hôpital, dans une ambulance. Par contre, dans une voiture, si on a chaud, on ouvre les fenêtres ou, plus simplement, on ne trouve pas de prétexte pour prendre la voiture. À quoi bon polluer pour se rendre au travail et y fabriquer quelques déchets supplémentaires ? Mieux vaut revendiquer un congé climatique. Et puis, tous les conseils donnés dans cette émission ne sont bien évidemment que des gestes individuels qui ne permettront que de mieux survivre individuellement aux problèmes collectifs auxquels nous faisons face. Auxquels nous contribuons activement. Car n'oublions pas une chose, le réchauffement climatique court plus vite que nous, d'autant que la grande majorité du monde occidental fait tout pour mieux reculer. Alors, s'adapter, c'est juste faire en sorte que les effets soient transitoirement moins douloureux, mais ils restent. Et pas qu'un peu. Les autres animaux, la flore, bref, le vivant, souffrent. Et au-delà du poids moral que cela implique, c'est notre alimentation, la capacité de survie de notre humanité qui s'étiole en parallèle. Et que l'on ne me parle pas de culpabiliser. Si, quand chaque jour, on participe activement aux problèmes des autres, mieux vaut peut-être quand même être un peu lucide. Le dérèglement climatique, c'est parce que chaque individu, pris dans le collectif, prend sa voiture, prend l'avion, achète des babioles de l'autre bout du monde, continue à travailler dans des entreprises écocides qui ne sauront jamais faire autre chose que du profit. Dire les choses factuellement est nécessaire. Culpabiliser est le choix de certains pour y faire face. D'autres préfèrent l'action. On veut du green, 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 green washing. Allez, pour sauver la planète et faire mon marché, je vais prendre le train de Najac à Villefranche-de-Rouergue. J'arrive à la gare, pas de guichet. certainement pour de sombres histoires de budget sans souci d'inégalité d'accès aux services publics. Pas de distributeur de billets non plus, mais sympa nonceau. L'accès au quai est interdit sans titre de transport. Ah oui, mais du coup, je l'achète où mon billet ? La réponse à la question est sur un autre panneau. Pour acheter votre billet, rendez-vous à la gare la plus proche, Villefranche de Rouergue. Ah, c'est quand même toute une logique ça. Pour aller en train à Villefranche, il faut au préalable aller en bagnole ou à vélo à Villefranche de Rouergue, avec une sacrée montée entre les deux, revenir, et là, on peut prendre le train pour aller à Villefranche. Quel est le sombre idiot ou cynique qui a réussi à pondre ça ? SNCF, la balle est dans votre camp, je crois, à moins que ce ne soit dans le camp de la région Occitanie, présidée par une spécialiste des dégâts environnementaux et sociaux.
N'écoutons pas les merveilles et les prédicateurs à lampe à huile.
T'as lu Le Monde, Le Figaro ?
Ouais. T'as lu L'Équipe, t'as lu Métro.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Parenthèse pour le climat. Au moment où nous parlons de sujets très importants, je veux vraiment inciter tous nos compatriotes qui nous écoutent à la grande vigilance, à la précaution, à prendre soin des plus âgés, des plus vulnérables, comme des enfants, et à bien suivre toutes les préconisations du gouvernement, parce que ce sont des jours difficiles qu'on est en train de vivre, et donc il faut beaucoup se ménager et écouter les conseils.
Dit-il, habillé chaudement en costume. La tenue idéale pour un studio climatisé. Un studio sans fenêtres, peut-être pour s'assurer de se tenir à distance de la réalité du monde, pour éviter de voir les arbres claquer, l'herbe grillée, avant même le début de l'été. Tout cela n'est guère convaincant, d'autant qu'on a bien compris que pour Monsieur le Président, depuis sa première élection, le climat mérite d'être mis en parenthèse. Le climat, 20 secondes au milieu d'une interview de 3 quarts d'heure. Le président, il préfère parler de bras de fer, de rapports de force, de dîner entre gros bras, de discussions autour d'une table entre autoritaristes, suprémacistes, racistes, xénophobes. Sacrée brochette de traître de l'humanité. Oui, il faut être lucide. Quand on privilégie ses intérêts personnels, ceux de ses proches, de ses financiers, quand on détourne l'attention de la vraie vie, quand on essaie de faire croire que gagner des clopinettes et fabriquer de la merde, échanger avec une IA, tout cela est plus important que de manger, boire, apprendre, transmettre, partager, socialiser, aider. Quand on fait croire que vivre au détriment des générations futures est normal, que le business justifie les malheurs des autres, qu'il faut prolonger le système qui assure dès aujourd'hui nos souffrances, qui tue les arbres et tout ce qui assure notre survie, tout ce qui assure notre enchantement. Ce n'est ni plus ni moins un traître à l'humanité et aux vivants, avec son lot de collaborateurs autour. On l'a vu dans cette émission, pour avoir moins chaud, il ne faut surtout pas suivre les préconisations du gouvernement. Il faut arrêter de travailler au service du réchauffement climatique, des inégalités. Il faut utiliser des moyens simples mais efficaces pour se protéger de la chaleur, plutôt que d'alimenter les dividendes d'une certaine oligarchie en achetant des équipements inefficaces quand ils ne sont pas contre-productifs. C'était les Croissants décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.